Vous écoutez RTL.
Il est 7h47. Vous recevez aujourd'hui Jérôme Florin, un ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole député de la 4e circonscription de la Sarthe sur RTL.
Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Une page se tourne, Parti Socialiste, apparemment ça se confirme, en tout cas si l'on en croit le canard enchaîné. Le parti va devoir vendre son siège historique de Solferino, est-ce que vous pouvez le confirmer ?
Mais je ne confirme pas cette information, d'abord parce que je pense que pour prendre une telle décision, il faudra une instance du Parti Socialiste pour pouvoir acter ou pas d'ailleurs ce type de proposition de décision. La seule instance que je connaisse qui serait habilitée à prendre ou à discuter de ce type de questions, c'est le Conseil national. Donc on attendra que le Conseil national soit réuni et qu'on en discute de manière suffisamment objective. Parce que moi, je n'ai aucun chiffre aujourd'hui sur... J'ai bien compris, la situation financière doit être très difficile compte tenu des résultats. Je l'anticipe, je le sais. Mais après, quelle est la situation exacte et quelles sont les décisions qu'il faut prendre, ça mérite une discussion avant de lâcher dans le canard enchaîné, comme souvent, une information comme cela. Donc moi, je dis, le canard, c'est le canard. Maintenant, c'est au Conseil national de discuter de ça.
Il coûterait 40 millions d'euros, ce siège, toujours d'après le canard.
Oui, vous savez, il se trouve que je me rappelle un peu, dans la période aussi de 93, quand il y avait des grosses difficultés, il y avait des évaluations qui avaient été faites de ce grand bâtiment. Puis au fond, après, compte tenu des investissements qu'il fallait y faire, au fur et à mesure, sa valeur patrimoniale a beaucoup baissé. Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. Moi, je dis maintenant, rendez-vous dans une instance du Parti Socialiste pour en discuter.
Et quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Vous étiez Stéphane Le Foll, il y a encore quelques semaines, ministre de l'Agriculture. Oui. Et vous devez avoir les oreilles qui sifflent en ce moment. Le monde agricole, ou en tout cas une partie de ce monde, est en colère contre vous. La FNSEA vous accuse d'être parti en laissant une grosse ardoise. Écoutez Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Stéphane Le Foll a été probablement trop généreux et a dépensé trop vite, a trop promis. Résultat, il manque aujourd'hui 853 millions d'euros.
Vous avez trop dépensé, Stéphane Le Foll ?
Oui, je vais répondre de manière très claire, parce que la FNSEA, pendant 5 ans, m'a sifflé, a été un acteur important du monde agricole, mais alors pas toujours accommodant avec le ministre de l'Agriculture. Ça continue. Même quand je suis plus ministre, décidément, c'est comme si c'était moi qui décidais de tout. Sur la question qui est évoquée. D'abord, Mme Lambert dit que j'étais trop généreux. Il y a une semaine, elle disait que j'étais un braqueur, parce que j'avais fait un hold-up. Déjà, je note une certaine évolution. Trop généreux. Trop généreux parce que la bio a dépassé. Alors que j'avais doublé.
L'agriculture bio.
L'agriculture bio, oui, exactement. L'agriculture bio a doublé ses surfaces. On a doublé le budget. Et même en doublant le budget, il y a une demande encore plus forte. C'est pas moi qui est généreux, c'est les agriculteurs qui demandent. Sur les MAE, qui s'appellent les mesures agro-environnementales, c'est-à-dire comment on change les modèles de production. De la même manière, les agriculteurs sont extrêmement demandeurs. C'est pas moi qui est généreux, c'est les agriculteurs qui le demandent. Donc, il s'agit pas de se renvoyer comme ça à la figure des responsabilités, il s'agit de les assumer maintenant.
Mais Stéphane voilà. Travers, votre successeur, confirme ce que dit Mme
Lambert. Non, parce que
Lambert,
850 millions, Mme Lambert.
Parce qu'il dit, il n'y a plus assez d'argent, j'ai plus assez d'argent à distribuer.
Oui, mais j'ai plus assez d'argent. Je note que c'est le leitmotiv du gouvernement dans tous les domaines. Je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé sur les APL.
On y reviendra.
Oui, mais c'est quand même. Donc, on n'est pas simplement sur l'agriculture, Stéphane Travers. Il y a bien sûr une question d'ajustement, toujours, à la fois sur le budget de 2017, je ne sais pas ce que seront les décisions du gouvernement, et puis sur la maquette globale. Je rappelle que sur cette maquette, qu'on appelle ça toutes les dépenses de l'agriculture sur les 5 ans que j'ai négociées entre 2014 et 2020, c'est 9 milliards. Que la maquette précédente, c'était 5 milliards.
Donc
4 milliards de plus.
Il n'y a pas d'ardoise de 853
mais y a,
millions d'euros.
Non, 853 en plus, Mme Lambert, rajoute les questions liées au fonds de gestion des calamités agricoles. Désolé de lui dire que l'État a versé, et tous les ans, plus de 140 à 180 millions d'euros, que lorsqu'il y a des crises sanitaires, la grippe aviaire en particulier, qui a été touchée tout le Sud-Ouest deux années de suite, c'est près de 200 millions deux fois en 2016 et en 2007 qui ont été débloqués. À chaque fois, si c'est ça, être généreux. Non, c'est de venir en aide.
Bon, on ne va pas se noyer dans ces querelles de chiffres.
Voilà.
Parce que
donc
c'est
la seule chose
que je veux
dire, c'est
qu'on dirait...
me monte sur les arpions, en tant que ministre, on vient me chercher en me traitant de braqueur. Ça, je ne l'accepte pas. Que Mme Lambert assume aussi ses responsabilités. Maintenant, il y a un ministre, elle est présidente de la FNSEA, il faudrait quand même qu'on se mette les choses au clair. Et donc ce matin, je le dis de manière très claire.
Stéphane Le Foll, au Venezuela, la fameuse assemblée constituante élue dimanche dans un bain de sang prend ses fonctions aujourd'hui. Deux figures de l'opposition ont été arrêtées. Il y a notamment le maire de Caracas. Je rappelle le bilan depuis le début des manifestations au printemps, plus de 120 morts. On n'entend pas beaucoup la France. C'est le silence du côté de l'Élysée.
C'est un silence qui est assez problématique. Parce que j'ai vu aussi des déclarations du Parti communiste, des insoumis.
Oui, ils parlent beaucoup, eux.
En disant, on renvoie en fait la situation à la responsabilité qu'aurait l'opposition. Il y a eu une élection législative il y a 2 ans au Venezuela. Elle a donné une majorité large à l'opposition. Bon, alors la question qui est posée, c'est est-ce que le Venezuela reste dans la démocratie ou est-ce qu'il en sort ? Et quand je regarde ce qui s'est passé avec M. Maduro qui convoque une élection, c'est lui qui la convoque. Il dit qu'il y a 40% des électeurs qui sont déplacés. Je ne sais pas, parce que les chiffres, je ne sais pas, mais il y a des électeurs qui sont déplacés. Mais au nom de quoi ? Ceux qui se sont déplacés cette fois-ci, moins nombreux que ceux qui ont été votés la dernière fois, auraient raison sur les 100% qui ont été votés et qui ont donné une assemblée, il y a 2 ans, de l'opposition.
Vous dites que c'est un dictateur ?
Je dis qu'aujourd'hui, on est en train de sortir des règles de la démocratie. Et c'est ça le problème. Et que ceux qui font semblant de dire qu'il y aura un débat derrière plutôt droite-gauche, se trompe. Il y a d'abord un débat sur démocratie, sortie de la démocratie.
Est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ?
Mais la France doit exprimer cette volonté qu'on ait...
Pourquoi elle ne le fait pas ?
Mais je ne sais pas, et je vous le dis ce matin, on doit s'exprimer sur ce sujet. On ne peut pas laisser une situation d'un grand pays comme le Venezuela, avec l'histoire qui est la sienne, tomber dans le chaos, et potentiellement ou probablement, avec ce que vous me dites, ces arrestations d'opposants, dans une forme de sortie de la démocratie qui nous emmène au fur et à mesure vers le bâillonnement de l'opposition. Ce n'est pas possible.
Stéphane Le Foll, encore un couac sur les emplois familiaux des parlementaires. C'est le Canard Enchaîné qui révèle que le sénateur Modem du Rhône... promis au Conseil constitutionnel, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, aurait embauché 2 de ses filles au Sénat comme assistante parlementaire. Notamment, l'une travaillait à Londres, donc elle ne pouvait pas travailler en même temps à Paris. En tout cas, c'est ce qu'affirme le Canard Enchaîné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'affaire Fillon, c'était l'arbre qui cachait la forêt ?
Mais ça veut dire qu'à l'époque, personne ne pouvait interdire à un parlementaire d'embaucher quelqu'un de sa famille. C'est ça que ça veut dire. Alors après, il y a la question de l'affaire Fillon. C'est pas l'embauche de Madame Fillon qui était le problème. C'était d'embaucher quelqu'un qui était payé et qui ne faisait pas son travail.
Mais à chaque fois, on se rend compte que c'est des gens qui ne travaillent pas vraiment.
Mais à chaque fois, on revient sur des sujets. Monsieur Mercier, je ne sais pas quand est-ce que c'était. C'est cette embauche de filles.
Entre 2002 et 2013.
Bon, d'accord. Donc c'était à un moment où ce n'était pas interdit. La seule question qui était posée, c'est si j'embauchais quelqu'un de ma famille, est-ce qu'il travaillait effectivement ? C'est ça la question. La seule qui doit être posée. Puisque à l'époque, et cette question de l'emploi familial, vous voyez bien qu'elle s'est transformée. On était sur une question d'emploi fictif, on est passé sur une question d'emploi familial. C'est l'emploi fictif qui est condamnable, et fortement condamnable.
Est-ce que sa nomination au Conseil constitutionnel, qui sera examinée d'ailleurs aujourd'hui au Sénat, pose problème ?
Ça, c'est un autre sujet. Moi, je laisserai ceux qui ont à décider des nominations au Conseil constitutionnel décider. Mais à l'époque, je répète, on pouvait embaucher quelqu'un de sa famille.
Emmanuel Macron a décidé de recadrer ses troupes, de reprendre en main sa communication également. On dit qu'il va se montrer moins distant, sa cote de popularité est en baisse. Il s'est vu trop haut, trop beau ?
Oh, j'en sais rien, je ne sais pas s'il s'est vu trop haut, trop beau. Il y a eu une élection présidentielle, il a été élu président de la République, donc il y a une phase aussi où chacun doit prendre ses marques. Mais il y a des sujets sur lesquels ce n'est pas simplement de la communication personnelle. Je vais prendre un exemple, là. Celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est STX. J'ai bien compris qu'on avait changé la stratégie, qu'on a nationalisé STX.
On annonce une
nationalisation temporaire. Donc, tout le monde fait cocorico. Et puis, après, on va avoir les Italiens en disant, oh là là, les Italiens sont fâchés, donc on va essayer de renégocier pour STX et en même temps de renégocier quelque chose qui va concerner le militaire. J'ai envie de dire, la communication, là... c'est de savoir où on va, dans quel bateau on est. Parce que c'est pas Astérix contre les Romains aujourd'hui. C'est quelle était la perspective qu'on donnait à ces magnifiques chantiers de Saint-Nazaire. Il fallait stabiliser, après qu'on ait perdu un actionnaire coréen, il y avait la possibilité d'avoir un Italien. Il faut mettre les choses au clair, c'est ce qui avait été fait avant. On a remis tout ça en cause, et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la France est en difficulté. Là, il y a un problème de communication.
Mais c'est pas que
où
ça,
va-t-on?
C'est aussi les cafouillages à l'Assemblée.
Les cafouillages à l'Assemblée, on ne peut pas les imputer au président de la République. Les cafouillages à l'Assemblée, c'était
lié... Ce sont ses proches qui sont censés encadrer le groupe, et on ne les verrait pas.
Qui n'étaient pas vraiment là. Bon, très bien. Enfin, ça, c'est pas toujours de sa responsabilité. Ce qui est de la responsabilité du président de la République, c'est des choix importants. Et ça, c'en est un. Donc là, où va-t-on? Dans quel bateau est-on embarqué?
Sur STX, c'est le cafouillage.
Oui. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant de renégocier tout et d'intégrer dedans même la question de Naval Group, c'est-à-dire la DCNS, c'est-à-dire les bateaux militaires, en fait, de la marine militaire.
Stéphane Le Foll, vous avez des nouvelles de François Hollande?
Ça m'arrive d'avoir des nouvelles de François Hollande, on discute, oui.
Il ne s'ennuie pas trop, loin du pouvoir?
Je pense pas qu'il s'ennuie, il a des choses à faire et voilà.
Il va revenir en politique?
Mais on me pose toujours la question avec cette idée que, étant un proche du président de la République, j'aurai la réponse. Moi, quand j'ai assumé mes responsabilités, vous les avez rappelées, je suis resté loyal et fidèle. Loyal et fidèle à un engagement, à une responsabilité collective qui était celle de gérer la France pendant 5 ans. Maintenant, François Hollande n'est plus président de la République. Je continue à avoir des contacts, bien sûr, mais son destin, c'est lui qui l'a en main.
Merci Stéphane Le Foll, député Nouvelle Gauche et ancien porte-parole du gouvernement et de l'agriculture, ancien ministre de l'agriculture. Merci, bonne journée.
Merci à vous.